Bonsoir, comment allez-vous? Vous est-il déjà arrivé de tendre l'oreille pour entendre plus nettement la conversation de vos voisins dans un restaurant? Ou de vous redresser pour apercevoir un jardin par-dessus une haie? Il s'agit là de percevoir quelque chose qui ne nous est pas donné, car on sait bien que l'intéressant est dans cet au-delà. Eh bien, je vous propose de faire la même chose avec les gens que vous allez rencontrer cette semaine. Ce qu'ils vont vous donner à voir est une image d'eux-mêmes, des paroles, un habillement, une gestuelle. Et si discrètement, vous vous mettiez sur la pointe des pieds pour regarder au-delà de cette haie qui a été si bien taillée pour la rentrée? Plutôt que de juger la haie, si vous observiez le jardin qui se cache là derrière. Ce n'est pas une démarche facile que de trouver et d'aimer ce que l'autre cache. Il faut se déhancher et se dévisser le tympan parfois. Mais franchement, ça vaut la peine. Arriver à percevoir la gentillesse derrière l'arrogant, l'envie de transmettre derrière la rigidité du prof, l'humour derrière le timide, la mauvaise image de soi derrière le vantard. En regardant derrière la haie, on voit que le monde n'est pas uniquement peuplé d'égoïstes, d'opportunistes et de cinglés. On voit qu'on n'est pas tout seul. On voit aussi qu'entassés à côté des fleurs magnifiques, ce petit foutoir d'arrosoir crevé et de peau cassée ressemble un peu au nôtre, non?
Bonjour, je m'appelle Alice, j'ai 8 ans et je voudrais savoir à quoi ça sert d'avoir peur. Au revoir.
Bonsoir Alice, j'aime bien ta question « À quoi ça sert d'avoir peur ?» Cynthia Fleury, vous êtes philosophe, vous êtes psychanalyste et vous êtes entre autres professeur au Conservatoire National des Arts et Métiers. C'est une vaste question, hein, que celle d'Alice. C'est courageux. Vous n'avez pas eu peur de la choisir.
Tout à fait. C'est une très belle question d'Alice. Alors, la première chose, c'est que oui, elle a raison d'utiliser le verbe servir. Parce que la peur, ça sert à quelque chose. Et ça sert notamment à nous protéger. À nous protéger des dangers, des menaces. Et donc, ça fait un travail de vigie. Hein, de vigie au sens de vigilance. Et ça renvoie à notre instinct de conservation. Et notre premier travail en tant qu'être humain, c'est quand même de conserver notre être, de rester en vie. Donc la peur, c'est d'abord une pulsion de vie. Je me protège et je comprends. Donc ça, c'est très important. Et un être qui n'a pas peur est en danger. Parce qu'il ne peut pas se protéger face aux attaques extérieures, etc. Donc ça, c'est une vérité de base biologique et émotionnelle. C'est une émotion, la peur, absolument déterminante pour se protéger.
Moi, j'aime beaucoup comme tout ce qui déculpabilise.
Voilà. Bon, bah ça, très, très bien. Deuxième point, en revanche, si on ne reste que dans la peur, c'est un danger, de nouveau, pour l'individu. Pourquoi ? Parce que la vie, c'est de la peur pour se protéger, mais la vie, c'est aussi du risque. Et donc, le risque, ça veut dire qu'il y a certaines peurs qu'on peut attraper, faire face à ces peurs-là et se dire, ces peurs-là, je vais les dépasser. Je vais les dépasser parce que la vie, de fait, est aussi une part de création, une part d'inattendu, et donc il faut que je prenne le risque. Je ne connais pas tout, la vie est incertaine, et donc je ne peux pas tout maîtriser. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin de grandir, c'est pour ça qu'on a besoin d'être éduqué, c'est pour ça qu'on a besoin d'apprendre, parce que voilà, on va passer comme ça d'une peur protection, qui a plutôt une tendance à nous conserver dans notre être, à une peur, mais qui sait qui doit être dépassée, et qui d'une certaine manière appelle au courage. Je rappelle qu'il n'y a pas de courage sans peur. Donc vous voyez que la peur est absolument nécessaire pour avoir du courage. Et à ce moment-là, on dépasse sa peur. Et donc, on continue sa vie en découvrant des choses. Sinon, on ne découvrirait rien.
La grande question, Cynthia Fleury, c'est la fameuse phrase de Marc Aurèle. Accepter ce qu'on ne peut pas changer.
Tout à fait.
Avoir le courage de changer ce qu'on peut changer. Et la sagesse pour discerner entre les deux. Alors, comment sait-on quelle est la bonne et la
ben
différence
voilà, c'est
entre
ça.
La bonne
c'est
et
à
la
dire,
mauvaise
ben, c'est tout l'objet, ce qu'on peut dire à Alice, c'est qu'elle va avoir toute sa vie pour découvrir cette grande action du discernement entre une juste peur, une peur qu'il faut garder, parce qu'elle est protectrice, et puis une peur, en revanche, comme on dit, qui est mortifère. Mortifère, ça veut dire qui nous amène vers la mort, au sens où on ne fait plus rien, et on n'est plus dans la pulsion de vie, de découverte, d'apprendre, d'inattendu, etc., et qui fait qu'on se referme et qu'on devient comme ça tout rabougri. Et la vie permet, la vie au sens de culture, d'intelligence, etc., de discussion aussi avec les uns et les autres, c'est toujours très intéressant de discuter avec ses camarades en disant, mais toi, de quoi tu as peur? Et elle se rendra compte d'ailleurs que certains de ses camarades ont peur de certaines choses, alors qu'elle n'en a pas peur. Donc la peur, c'est aussi une affaire subjective, c'est pas qu'une affaire objective. Hein. On n'a pas tous peur de la même chose. Et donc on voit à ce moment-là qu'on peut aussi utiliser l'expérience des autres pour se dire, mais tiens, là, cette peur, elle n'a peut-être pas de sens et je vais essayer de la traverser parce que, justement, au contraire, je vais m'épanouir en traversant cette peur, au lieu de me conserver, comme je pourrais croire, et en fait de devenir toute petite.
Il n'y a donc pas de honte à avoir peur. Vous pouvez réécouter ou faire réécouter cette réponse des petits bateaux, cette réponse de la philosophe Cynthia Fleury, sur franceinter.fr. Vous connaissez le principe des petits bateaux. Des enfants nous appellent et nous proposons leurs questions à des spécialistes.
Bonjour, je m'appelle Elliot, j'ai 7 ans. Je voudrais savoir par où mangent les méduses. Merci, au revoir.
Bonsoir Elliot. Ta question, on ne savait pas très bien à qui la proposer, parce que alors, des spécialistes des méduses, ça ne court pas les rues. Laurent Chevaux, vous êtes directeur de recherche au CNRS. Vous êtes un spécialiste de la mer, on peut dire ça comme ça?
Je suis biologiste marin.
Bien. Oui. Alors, mangent-elles seulement ces méduses?
Oui, ça Elliot, la question est excellente, parce qu'une méduse, ça mange, ça... plusieurs façons de manger, en fait, si on veut être un peu exact. Mais bon, l'immense majorité des méduses est carnivore. Et comme tu le sais, une méduse, ça a une forme d'ombrelle. Ça ressemble à un parapluie avec des tentacules qui pendent sous ce parapluie.
Ouais.
Au centre de ce parapluie, sous l'ombrelle, si on la retourne, on trouve une bouche. Et en fait, voilà, ces bras qui pendent, généralement urticants, qui sont des bras pêcheurs, qui lui servent à capturer des proies, des petites crevettes ou des petits poissons ou des petites larves en général, sont amenés vers la bouche tout simplement, au milieu de cette ombrelle. Et cet animal carnivore va digérer, derrière cette bouche il y a un estomac, elle va gentiment digérer ses proies sous cette ombrelle.
Donc alors, pour répondre à Elliot, elle mange par la bouche.
Simplement.
Elle digère.
Oui.
Elle évacue.
Oui. Et elle évacue par la bouche.
Aussi.
Les animaux assez primitifs, et la méduse en est un, n'a pas encore inventé un tube digestif droit. La bouche est l'endroit où les aliments vont rentrer dans l'animal et c'est également l'endroit où les excréments vont ressortir.
Mais elle se sera nourrie.
Elle se sera nourrie. Alors, il existe des choses un peu plus sophistiquées que ça, avec des méduses qui ont des bras qui ne finissent pas finalement dans cette cavité dite buccale et qui sont capables d'avoir en symbiose des végétaux, des organismes qui travaillent pour elle et elle se nourrit en cultivant ces organismes dans ses tentacules. Pas mal d'animaux qui sont des méduses posées sur le fond, à l'envers, et qui profitent du soleil pour élevés, des oxantelles élevées, des organismes qui lui serviront de nourriture.
Un peu comme les racines des arbres.
Un peu comme, comme une symbiose entre un champignon et une mousse, ou entre effectivement un champignon et un arbre. C'est vraiment une symbiose, un animal avec des végétaux qui vivent ensemble, l'animal portant les végétaux et lui offrant des sels nutritifs, et le végétal offrant ce qu'il produit, c'est-à-dire de la matière organique.
Donc les méduses qui font ça, cette symbiose, elles n'ont pas de bouche pour le coup.
Et celles-là, voilà, ont des anatomies différentes de celles que j'ai annoncées d'abord, c'est-à-dire une bouche, des tentacules qui amènent vers la bouche et qui digèrent. Là, il n'y a pas besoin de tout ça.
Laurent Chauveau, on dit la méduse, mais il y a plusieurs sortes.
Il y a plusieurs familles dans les méduses, avec des noms plus ou moins savants.
Genre, vous en avez un comme ça?
Les scyphozoaires sont des méduses, voilà, un peu étonnantes.
Ou scyphozoaires.
Des cubozoaires, des noms qui sont liés à la forme et à la façon de se reproduire et à la façon d'assurer un cycle vital qui est parfois compliqué, qui passe par des anémones de mer, des choses très fixées au fond, très fixées, ce que j'ai vu en Antarctique, fixées à la glace, sous la banquise, vivent des méduses sous la forme polype, sous la forme anémone.
La méduse est plus compliquée qu'il n'y paraît. Bon, vous n'oubliez pas, si vous avez un cas au Scrabble, scyphozoaire, c'est un mot qui existe. Laurent Chauveau est directeur de recherche au CNRS, je ne sais pas si je vous l'ai dit, et lui ne vous l'a sûrement pas dit tant il est modeste. Il a également écrit La coquille Saint-Jacques, sentinelle de l'océan aux éditions de l'Équateur.
Closer.
C'était Celle Lassoux, une jeune Belge de 31 ans qui a remporté 5 fois le prix de la meilleure artiste solo féminine au Music Awards. On dit bravo.
Les petits bateaux sur France Inter.
Ah bah, les footballeurs sont revenus sur le terrain et le répondeur est revenu au petit bateau. 01 56 40 43 57.
Bonjour, c'est Jean. J'aimerais savoir pourquoi à l'étranger, beaucoup de grandes villes ont deux clubs de foot et pas en France. Merci, au revoir.
C'est nous qui te remercions, Jean, parce que je me suis aussi souvent posé cette question à laquelle vous allez nous répondre, Fabien Archambault. Vous êtes historien.
Oui, bonjour Jean. Alors en fait, il y a, en France aussi, vous avez des villes où il y a plusieurs clubs de football. Mais disons qu'il n'y a pas deux clubs de football qui jouent dans le meilleur championnat, donc le championnat de première division, par
exemple. On n'a qu'un PSG.
Voilà, il n'y a qu'un PSG et le Paris Football Club ou le Red Star sont en deuxième division, voire en troisième division. Et effectivement, dans les autres grands pays de football européens, que ce soit en Angleterre, en Italie, en Espagne, souvent vous avez deux grands clubs, voire plus à Londres, par exemple, qui joue dans le championnat de première division. Alors, c'est ce qu'on appelle les derbies. Ça vient d'Angleterre.
Oui, quelle est la définition du mot derby ?
Alors, c'était une course hippique à Epsom, qu'on appelait le derby d'Epsom, et qui passionnait les foules. Et par métaphore, on a utilisé cette passion pour le derby hippique pour ce nouveau championnat professionnel de football où les matchs les plus attendus étaient les matchs qui opposaient les clubs d'une même ville. Alors pourquoi est-ce que justement c'était les matchs les plus attendus ? Bah parce qu'à l'époque, la principale source de revenus pour les clubs de football, ce sont les spectateurs. Et donc là où on fait la plus grosse affluence de la saison, bah c'est quand on joue contre les voisins, parce qu'ils n'ont pas beaucoup à pas faire. Si à Manchester, vous êtes supporter de Manchester City, et que vous allez voir le derby qui se joue à Manchester, dans le stade de Manchester United, vous prenez le tramway et vous y êtes. Alors que quand il faut aller à Londres, bah, ça coûte cher, et donc on n'y va pas. Et donc il y a ce système industriel du football professionnel qui met en avant ces derbies, avec la presse, etc., où on crée des rivalités. Et ensuite, dans chaque pays, il peut y avoir petit à petit des oppositions entre les supporters des deux clubs. Donc en Angleterre, c'est vraiment par quartier, mais dans certaines villes, par exemple à Glasgow, il y a le club des catholiques et le club des protestants. En Italie, c'est un peu différent. Les oppositions, c'est des oppositions sociales qui sont en partie fausses, mais elles fonctionnent d'une certaine manière entre la bourgeoisie, l'aristocratie et les classes populaires. Et donc, parfois, il peut y avoir des oppositions politiques. Par exemple, à Turin, vous avez le Torino qui se veut un club de gauche face à la Juventus qui serait le club des patrons, qui serait plus à droite. Mais tout le monde n'est pas d'accord. Il y a aussi le fait que, bah, par exemple en Italie, il y a des grandes vagues de migration. Quand on arrive du sud de l'Italie, on n'est pas intégré dans la société turinoise. Le grand club des Turinois, c'est le Torino, qui porte le nom de la ville. Et donc, qu'est-ce qu'ils font ? Bah, ils choisissent le club qui est un peu moins attaché à l'identité de la ville, donc la Juventus. Et ces immigrés, bah, ils votent pas la même chose. Les immigrés du sud votent plutôt à droite, alors qu'à Turin, on vote plutôt à gauche. Et donc voilà, ça devient un club de droite contre un club de gauche. En fait, la France n'est pas un grand pays de football par rapport à ses voisins, ce qui fait qu'il n'y a pas eu d'industriels qui ont investi autant d'argent qu'en Angleterre ou en Italie dans ces clubs de football-là.
Peugeot, Sochaux.
Voilà, par exemple.
Ils ont essayé quand même.
Et c'est eux qui sont à l'origine de la création du championnat professionnel en 1932 en France. Mais par exemple à Paris, vous n'avez jamais eu des grandes entreprises qui ont investi dans tous les clubs de la capitale. Ce qui fait qu'on n'a pas eu cette tradition du derby qui s'est installée en Allemagne, en Angleterre ou en Italie.
Le 6 août dernier, on nous annonçait la mort de Bernard Stiegler. Ce philosophe passionnant, passionné de jazz, de politique, de littérature, entre autres, avait eu un parcours particulier. Il nous avait fait la joie de venir répondre aux enfants des petits bateaux. Nous n'avions pas encore diffusé la question de Laura. La voici en signe de revoir.
Bonjour, je m'appelle Laura, j'ai 8 ans et je voudrais savoir d'où vient le progrès. Merci.
Ah, d'où vient le progrès, Bernard Stiegler ?
Eh bien, le progrès, c'est une époque, je vais employer un mot très barbare, mais je vais l'expliquer, de ce qu'on appelle l'exosomatisation. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ?
Je ne sais pas.
L'exosomatisation, c'est ce qui permet de décrire ce que c'est que l'être humain en tant qu'il produit des organes externe à son corps. Voilà. L'être humain, depuis son origine, depuis 3 ou 4 millions d'années, produit des organes artificiels, des silex taillés,
des outils, voilà.
Des lunettes, des tapis, des lits, toutes sortes de choses. Il cuit ses aliments, etc. Tout ça fait partie de l'exosomatisation. Ça veut dire en dehors de ce que, en grec, on appelle le soma, le corps, ça veut dire. Donc, on produit des organes hors du corps. Le progrès, c'est une époque de ça. Parce que pendant très longtemps, les hommes ont fait ça, mais ils s'en rendaient pas compte. Ils ne se rendaient pas compte que le monde changeait, en fait. Il y a très peu de temps que l'humanité a pris conscience du fait que le monde change.
C'est une histoire de rythme, peut-être.
Oui, c'est une histoire de rythme, exactement. Ça fait à peu près 3 siècles que l'humanité a, même pas 3 siècles, que l'humanité a commencé à comprendre que le monde changeait. Ce qu'on appelle la conscience historique. Pourquoi est-ce qu'ils ont pris cette conscience? En effet, c'est parce que l'industrialisation a fait que le rythme du changement s'est accru. Voilà. Le monde ne ressemblait plus à ce qu'il était quand on mourait par rapport à ce qu'il était quand on naissait. Et on commençait à en prendre conscience. C'est ça qu'on a appelé le progrès. Et on s'est dit, bon, bah, ça, c'est bien. Ça avait amélioré le monde. Et en effet, il y a eu au 19e siècle beaucoup de théories politiques aussi, qu'on appelait progressistes, qui disaient, voilà, on va changer le monde, on va améliorer, pas simplement changer le monde par les instruments, les outils, mais aussi par les rapports sociaux, on va réorganiser le monde, etc., etc. Aujourd'hui, il y a un doute sur le progrès. De plus en plus de gens se disent, mais ce qu'on appelait le progrès, en fait, c'est une catastrophe. Ça crée un continent de plastique dans le Pacifique, qui est immense, une pollution énorme. Ça pose d'immenses problèmes, par exemple, de chômage. L'automatisation, c'est du progrès. Et ça met plein de gens au chômage, c'est-à-dire à la rue. Certains dorment dans les rues, de plus en plus de gens. Etc., etc. On s'inquiète beaucoup pour ses enfants, quand on a des enfants. Voilà. Parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'ils vont faire à l'avenir? On se pose vraiment 1000 questions. Et ça, c'est très dangereux. Moi, je reste un progressiste. Je pense qu'il y a du progrès, mais le progrès, ça n'est pas la transformation technique. Ça passe par la transformation technique, mais c'est une transformation sociale. Et il faut changer aujourd'hui profondément le monde qui est très mal organisé. Tout ce dont nous avons hérité du 18e siècle, par exemple, qui était le siècle des Lumières, qui a tenu le discours sur le progrès, est devenu complètement insuffisant. Il faut faire une critique de tout cela. Non pas contre les Lumières. Je fais partie des rationalistes, moi. Mais je pense que, par exemple, à l'époque des philosophes des Lumières, au XVIIIe siècle, on ne connaissait pas ce qu'on appelle la thermodynamique. C'est-à-dire qu'on ne savait pas que l'univers était en expansion, que l'énergie se dissipe inexorablement, et que tout va vers le désordre. Voilà. Et ça, c'est un changement complet de mode de pensée. Eh bien, la philosophie a toujours pas intégré ça.
Voilà, nous pouvons désormais retrouver le philosophe Bernard Stiegler dans ses livres que vous trouverez sur le site des Petits Bateaux. Certains d'entre eux sont épuisés.
Je ne peux plus me réveiller, rien à faire. Sans moi, le monde peut bien tourner. À l'envers. En cours de par le sommeil et prisonnier de mon lit. J'aimerais que cette nuit dure toute la vie. En partant, tu m'as mis le cœur à l'envers. Sans toi, la vie est devenue. Tes cheveux.
Grand Sommeil, c'était Étienne Dao sur France Inter où vous écoutez Les Petits Bateaux. Le 19 août dernier est sorti au cinéma Epicentro, un documentaire du berce au père. Oh, un docu au cinéma, je vous entends d'ici, ça ne vous emballe pas, je sais. On va au Cinoche pour se détendre et on a envie d'une vraie histoire. Eh bien, allez-y, je suis prête à vous verser votre point en or si ça ne vous a pas plu. D'abord, ce sont des images qu'il faut voir en grand. Et ensuite, il y a une histoire. Celle de Cuba, racontée par des enfants, et surtout celle des enfants, racontée par le réalisateur Hubert Sauper, qui est tombé en amour de ses mômes et nous entraîne dans ce sillon de charme, de vivacité, d'intelligence, de drôlerie. 4 secondes après le générique de début, on aime ses préados comme les siens. Et 4 secondes après le générique de fin, il nous manque déjà. On est prêt à tout leur pardonner. De faire pipi dans la piscine, de s'agiter, de parler quand il faudrait se taire, de réclamer votre téléphone. Ce film, c'est l'enfance, ancrée dans le terreau de la Havane, se dressant vers le ciel radieux et dangereux de Cuba. Epicentro est un film qui donne envie. Envie de connaître non seulement Cuba, mais le monde. Donne envie de l'aimer, ce monde, à travers ses enfants qui nous charment et nous recadrent. Allez-y, j'y retourne avec vous.
Bonjour, je m'appelle Andrea, j'ai 8 ans et je voudrais savoir pourquoi clé et serre se finissent par un F. Merci, au revoir.
Bonsoir Andrea. Pierre Bergougnou, vous qui avez enseigné le français pendant de nombreuses années, que pensez-vous de cette question d'Andrea ?
Andrea est une jeune personne curieuse. Elle a noté qu'il y avait à la fin de cerf et de clé des F, dont l'un, parfois, pas toujours, continue d'être prononcé, alors que l'autre a disparu. On dit qu'il est amué, rendu muet. Eh bien, Andrea, c'est parce que le français vient du latin. Nous nous sommes emparés de cette langue qui venait de l'étranger. Et puis, nous l'avons accommodée à notre sauce. Nous l'avons profondément modifiée. Et en particulier, c'est une tendance propre aux Français, nous l'avons rognée, abrégée, réduite, écourtée. Le mot latin peut faire 200 mètres de long. Chez nous, c'est quelques centimètres à peine. On est soucieux d'aller vite au but sans s'embarrasser de mots interminables. Alors en latin, le cerf se disait servus et la clé clavis. Tu retrouves le clavis des latins dans ta clavicule, qui est cet os qui relie la cage thoracique à l'épaule. Tu le retrouves dans cet instrument de musique qu'on appelait le clavecin. C'est un instrument avec des clés. Alors, lorsque les mots latins ont été réduits, servus a donné serf et clavis clé. Il y a une complication qui s'est ajoutée dans l'intervalle. À partir du XIIIe, XIVe siècle, lorsque l'écriture qui avait à peu près disparu du pays, parce que c'est une période très, très noire, revient. Et un petit groupe de spécialistes, des copistes, des scribes, écrivent sur du parchemin, le plus souvent en latin et parfois en français. Et lorsqu'ils utilisent le français, qui était une langue considérée comme vulgaire, à côté de la langue noble qui était le latin, eh bien pour montrer qu'ils sont des gens capables, savants, compétents, ils introduisent ce qu'on appelle des lettres étymologiques. C'est-à-dire qu'ils savent qu'en latin, le cerf français s'appelait servus ou que la clé française s'appelait clavis, et ils ajoutent comme à plaisir des lettres qui ne servent à rien qu'à montrer qu'ils étaient des gens savants. Le pire, c'est peut-être le doigt, le pouce, l'index. Il y a un G et un T qu'on n'entend pas et qu'on n'a jamais entendu, et qu'un copiste plus particulièrement prétentieux avait cru devoir ajouter à la simple mention de doigt, D-O-I-T. Ce G et ce T qui ont disparu de la prononciation du mot doigt, on les retrouve en revanche dans ces mots un peu savants que sont par exemple digital, aussi bien l'adjectif digital que la fleur qu'on appelle la digitale, qui ressemble à des doigts, que dans la prestidigitation. Le prestidigitateur est quelqu'un qui a des doigts prestes.
Ces petits bateaux sont à réécouter ou à podcaster sur franceinter.fr. Marjorie Devoucoux, Alix Barrois, Eliane Gérard, Noël Bréham, nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain à 19h30 et nous serons à l'heure parce que nous sommes que des filles. Quant à l'Atelier Mon Petit Loup, vous entendrez désormais cette actualité des livres pour enfants le dimanche entre 17 et 18h dans Barbatruc, l'émission de Dorothée Barba. Après les informations, vous retrouverez Jérôme Garcin pour Un masque et la plume, consacré ce soir au livre.